Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
En 1977, 20 ans après sa mort et quelques mois après la célébration du centenaire de sa naissance, Georges Charbonnier consacrait sur France Culture un documentaire du vendredi à Constantin Brancusi, qui était né en 1876 en Roumanie. Une émission dans laquelle, durant 90 minutes, était exposé ce qui, dans l'œuvre de Brancusi, permettait à Georges Charbonnier d'avancer que le sculpteur était un créateur de la dimension de Michel-Ange et de comprendre comment ce fils de paysan romain avait pu devenir un artiste universel, reconnu dans le monde entier comme l'un des fondateurs de l'art moderne et l'un des plus grands sculpteurs de l'histoire. Une émission qui, par contre, ne permettra peut-être pas de comprendre pourquoi la reconnaissance de Brancusi en France fut si tardive. Alors qu'il avait développé l'essentiel de son œuvre en France, où il était arrivé en 1905 et dont il était devenu un citoyen à part entière en 1952, il fallut attendre 1995, soit près de 40 ans après sa mort, pour qu'une première grande rétrospective lui soit consacrée, avant d'attendre près de 30 ans encore pour qu'on lui consacre une autre grande exposition en 2024 au Centre Pompidou. Documentaire du vendredi, Constantin Brancusi, première diffusion le 7 janvier 1977 sur France Culture.
Le sculpteur Constantin Brancusi, les Français disent Brancusi, les Romains disent Brancouche, est né en 1876 et par conséquent en 1976 on a célébré le centenaire de sa naissance. On ne l'a pas célébré avec un grand éclat en France, mais on l'a célébré avec un grand éclat en Roumanie, encore que Brancusi ait passé la plus grande partie de sa vie en France. On l'a célébré avec éclat également dans nombre de pays étrangers. C'est probablement un homme de la taille de Michel-Ange. C'est-à-dire que depuis Brancusi, il n'y a pas eu de modification fondamentale dans la sculpture. Je ne dis pas que depuis Brancusi, il n'y a que des épigones de Brancusi, je ne dis pas cela du tout. Il y a des œuvres très différentes, Giacometti, celle de Giacometti par exemple. Mais sans aucun doute, il n'y a pas eu de modification fondamentale dans la manière de concevoir la sculpture, même si on pense à Gabot, même si on pense à Pevener, car il y a bien des noms là que je veux éviter de citer, parce que alors, précisément, ce sont ceux qui ont fait ou refait de la sculpture de Brancusi. Donc, en 1976, au mois de septembre, la Roumanie a célébré avec un très grand éclat le centenaire de la naissance de Brancusi, et on a organisé à Bucarest un colloque international où il est venu des Anglais, des Français, des Américains, des Allemands, il y avait naturellement des Roumains. Enfin, la palette représentative était extrêmement étendue. Et chacun des participants, le congrès avait lieu en public, je dois le préciser, chacun des participants a fait une communication. Ce qui a permis de mettre tout de suite en évidence plusieurs façons de parler de l'art, plusieurs façons de parler de Brancusi, et j'ai envie de dire que, au fond, plusieurs, c'est trop. Disons qu'il y avait deux blocs. Les uns parlaient de Brancusi d'une certaine manière, et les autres commençaient à parler de Brancusi d'une autre manière, ou parlaient franchement de Brancusi d'une autre manière. Alors, comment caractériser ces deux façons de parler d'un sculpteur ? Brancusi est né en Roumanie. C'est en 1904 seulement qu'il est venu en France et qu'il s'est fixé en France. Donc c'est sa jeunesse qu'il a passée en Roumanie, puisqu'il a 28 ans quand il arrive à Paris. L'essentiel de son œuvre, il l'a fait après. Il l'a fait lorsqu'il était à Paris. La sculpture qu'il a faite auparavant est une sculpture qui est très directement rattaché à l'enseignement qu'il a reçu et à la tradition populaire roumaine, ce qui n'est pas étonnant du tout. Or, la Roumanie est un des pays où la tradition populaire, artistique, est extrêmement forte. On ne pourra pas dire cela chez nous, mais en Roumanie, au moment où nous parlons en ce moment, la tradition artistique populaire est toujours aussi forte qu'elle l'était lorsque Brancusi était jeune. Donc, les premières œuvres de Brancusi sont très rattachées à cette tradition populaire. Et les formes que Brancusi va repérer autour de lui, celles, je ne dirais pas qu'il va reproduire, mais celles qui vont l'inspirer, c'est quoi ? Il est paysan, il est berger. Alors, il y a donc d'abord la maison. Les maisons dans la campagne roumaine, dans la plupart des provinces, comportent des sortes de petits auvents devant la porte, avec des colonnes. Des colonnes très fines, très minces, souvent en forme de vis, pas toujours, il y a un certain nombre de motifs, et les ethnologues, vous le pensez bien, ont fait un catalogue de tous ces motifs, dans quoi on retrouve beaucoup de fruits, ou tout au moins, on donne des noms de fruits à certaines de ces formes. Ainsi, il y a un motif qui porte le nom de pomme, un motif qui porte le nom de poire, mais ce que nous voyons, nous, étrangers à cette tradition, c'est surtout la forme de vis. Vis de pressoir, qu'on imagine une vis de pressoir normande, mais alors que la vis de pressoir normande est une chose massive, la colonne en forme de vis, en forme d'hélice, qui orne les maisons roumaines et qui soutient en même temps le toit des maisons roumaines, est une colonne extrêmement élancée, en apparence très fine. On est étonné qu'elle puisse supporter les poids qu'elle supporte. Et cependant, elle a un rôle fondamental dans l'architecture. Alors, cette colonne, Brancusi la voit. Ses motifs paysans, il les voit, il les reproduit. Et puis, que voit un sculpteur autour de lui et que voit un paysan autour de lui ? Il voit des oiseaux. Il peut voir des poissons, mais pour voir des poissons, il faut vraiment s'approcher d'une rivière. On n'est pas obsédé tout de suite par la forme de poisson, tandis que l'oiseau est quelque chose de fondamental pour un berger. C'est le motif type de distraction. Dans l'immobilité, ce qui va introduire un mouvement brutal, rapide, une fusée, c'est le passage d'un oiseau. Cela, il va l'enregistrer et c'est dans la suite de sa vie que cela va servir, que cela va lui servir. Et puis il y a ceux qui nous entourent, c'est-à-dire les visages. Et il est frappé par les visages pendant toute la première partie de sa vie, et principalement par les visages d'enfants. Il fera des portraits, mais c'est surtout les visages d'enfants qui vont le retenir. Et au fur et à mesure qu'il va prendre de l'âge, et surtout après 1904, ce sont les visages de femmes qui vont le retenir. Disons que tout ce qu'il peut y avoir de sexuel dans un visage ne le frappe pas quand il est jeune, et le frappe à partir d'un certain âge. Et nous verrons tout à l'heure ce qu'il va en faire. Car la sexualité du visage féminin, il va l'exprimer autrement, et le visage féminin va lui servir à trouver une géométrie. Alors où se trouvent les œuvres de Brancusi ? Car nous sommes à la radio, nous parlons d'un sculpteur, il faudrait disposer de l'image, et ici ce n'est pas la télévision, je crois que je le déplore à longueur d'année. Où peut-on trouver les œuvres de Brancusi ? Eh bien, en Roumanie, quelques-unes à Venise, dans une collection privée, et la plupart aux États-Unis. C'est-à-dire que nous en sommes réduits à la reproduction. Que trouve-t-on de Brancusi en Roumanie ? J'ai envie de dire l'essentiel, car si on ne connaissait de Brancusi que ce qu'il a fait en Roumanie, que ce qui se trouve en Roumanie, alors, il serait un sculpteur aussi grand qu'il l'est lorsque l'on considère tout le reste de son œuvre. Ce n'est pas à dire que le reste de son œuvre est inutile, ce n'est pas à dire que le reste de son œuvre vient se surajouter à l'ensemble dont nous allons parler, mais je veux dire que tous les types d'analyses que l'on peut appliquer à son œuvre entière, on peut en découvrir la nécessité d'application dans ce qui se trouve en Roumanie. Alors il y a quoi ? Il y a l'ensemble de Târgu-Jiu. Târgu-Jiu est une ville de l'ouest de la Roumanie, et à Târgu-Jiu se trouvent trois ensembles extrêmement célèbres, Je vais les prendre dans un certain ordre et nous allons voir ce qu'on peut en faire. Il y a la table du silence, il y a la porte du baiser, il y a la colonne sans fin. Fixée à perpétuelle demeure. Déjà, c'est important de le signaler. Une sculpture, ainsi qu'on l'admet couramment, c'est tout de même quelque chose qu'on peut déplacer d'une pièce à une autre, qu'on transporte d'un musée à un autre. On peut tout transporter, même Notre-Dame, pierre par pierre, bien entendu. Mais il faut toujours penser à l'intention du créateur et à l'intention de ceux qui ont fait la commande. Ce que l'on a demandé à Brancusi et ce qu'il a fait, ce sont des choses destinées à rester, à demeurer. Les juristes disent « fixer à perpétuelle demeure », c'est l'expression que j'employais tout à l'heure. Ce n'est pas une expression artistique, mais il est nécessaire de le signaler. Alors, quand on arrive à Tirgujiu, la première chose que on va voir, c'est bien entendu l'ensemble. On montre d'abord au touriste la colonne infinie. Puis on lui fait traverser Tirgujiu, on l'emmène dans le parc de Tirgujiu, il traverse une très large avenue, soit la porte d'un grand parc, une grande porte en fer, les deux battants sont écartés, et on est face à face avec une espèce de petit arc de triomphe, comme forme générale, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un arc triomphal, mais c'est la forme générale que j'évoque. C'est la porte du baiser. On peut passer sous la porte du baiser et au loin, on aperçoit la table du silence. Alors, pour des raisons que je vais exposer maintenant, c'est un ordre de visite absolument incohérent. Alors, prenons la visite dans le bon ordre. Et vous allez voir qu'en effet, il faut le prendre dans l'ordre que je propose. On s'approche du fleuve, qui est un affluent de l'Olt. Et au fond de ce parc, donc près du fleuve, se trouve la table du silence. Table ronde, plate, de très grande dimension, en pierre, sur un socle cylindrique, et autour que l'on imagine une succession de sabliers. De sabliers. Mais l'idée de sablier, c'est l'idée de deux cônes opposés par la pointe. Tandis que là, ces deux cônes sont à la vérité des formes extrêmement pleines, curvilignes, gonflées. On pourrait dire, tenez, des coquetiers, voilà. De vieux coquetiers métalliques, les vieux coquetiers doubles que l'on pouvait retourner et dont on pouvait faire usage dans les deux sens. Alors ces coquetiers en pierre se trouvent autour de la table. Et la première remarque que l'on fait, c'est que si on vient à s'asseoir sur ces sièges, on est trop loin de la table pour pouvoir s'y appuyer. Donc, première idée, on ne peut pas se servir de la table et elle est nécessaire. On peut s'asseoir autour de la table, mais on n'est pas très près les uns des autres. Donc on ne va toucher ni à la table, ni à soi-même. Alors comment allons-nous interpréter ça ? Alors je crois qu'on peut dire que, puisqu'il s'agit de la table du silence, chacun est réduit au silence pour soi-même. Ce qui est donc demandé au visiteur et à celui qui va s'asseoir, c'est le silence. Et pourquoi le silence autour d'une table si cette table n'est pas un autel ? Nous nous trouvons donc dans une atmosphère, faut-il dire religieuse, faut-il dire mystique ? Ce sont des mots que je n'aime pas beaucoup. Et il me semble que ce qu'indique Brancusi, c'est que le départ de l'expérience humaine doit commencer par le silence. La première conquête de l'individu, c'est le silence. Et le silence expérimenté. Or, comment peut-on expérimenter le silence si on n'est pas au contact des autres ? Autrement dit, le seul silence qui a de la valeur, c'est le silence que l'on pourra observer en compagnie d'autres individus. Le seul silence valable, c'est le silence avec nos semblables, parce que le silence, quand nous sommes seuls, a moins de valeur. Il en a une, un individu seul a tendance à parler tout haut. Combien de gens ne parlent pas tout haut quand ils sont seuls ? Combien ? À qui cela n'est jamais arrivé ? Pas beaucoup, probablement. Mais là, c'est l'expérience collective du silence devant un autel. Donc, la première leçon est une leçon de non-langage. Premier précepte, tuer le langage. On sent la nécessité d'une affirmation. Et on se demande tout de suite si les autres éléments de l'ensemble, la porte du baiser, puis la colonne sans fin, ne vont pas entrer dans ce cycle d'expérience et de conseil humain. Autrement dit, on se dit tout de suite, si on a bien examiné la table du silence, que c'est un parcours initiatique qui va être proposé à l'individu. Alors prenons ce parcours initiatique dans le bon sens, c'est-à-dire que je me place de telle manière que j'ai devant moi la table du silence entourée par ces sièges de pierre, je la contourne, je continue de l'autre côté, droit devant moi, et je vais vers la porte du baiser. Je ne vois pas la colonne infinie, elle est trop loin, elle est de l'autre côté de la ville. Mais les trois éléments sont en droite ligne, je pourrais m'en assurer sur un plan. Et s'il y a assez peu de distance, une centaine de mètres, entre la table du silence et la porte du baiser, il y aura 2 kilomètres entre la porte du baiser et la colonne sans fin. Et les distances vont avoir une importance capitale dans l'interprétation. Donc je suppose que je suis en présence d'une démarche initiatique. On me propose d'aller vers une révélation, et le premier conseil que l'on m'a donné, c'est le silence. L'expérience de l'homme, c'est d'abord de se taire, de tuer le langage en lui, puis de s'avancer vers la porte du baiser. Mais est-ce que le silence est refusé lorsque l'on s'approche de la porte du baiser? Est-ce que l'on dit qu'on n'a plus droit au silence? Absolument pas. Mais par contre, qu'est-ce qui est demandé cette fois? C'est l'union des individus. Donc il y a quelque chose qui est encore plus précieux que le silence, quelque chose qui respecte le silence, quelque chose qui, sur le plan de la sagesse, est plus que la renonciation au langage, qui sera en même temps silence, qui sera une autre façon de tuer le temps et de prendre, si j'ose dire, des instants d'éternité, c'est l'union des individus, la porte du baiser. Alors, supposons qu'il en est ainsi, approchons-nous de la porte du baiser et qu'allons-nous découvrir? Je disais, la forme générale, un petit arc de triomphe. Pensons, un petit arc de triomphe plutôt au sens je parle des proportions, plutôt au sens de l'arc de triomphe des Tuileries que de celui de l'étoile. En fait, il est beaucoup plus petit. C'est un arc de petite dimension. 4 pieds, massif, une forme très simple. Et si je regarde cette porte du silence, comment se présente-t-elle? Des blocs de pierre, des parallélépipèdes plantés dans le sol, un parallélépipède qui va d'un bloc de pierre à l'autre. On ne peut pas être plus simple, c'est géométriquement au carré un dolmen. Alors, je vais examiner les piliers de près. Je m'aperçois qu'au milieu de chaque pilier, il y a une ligne qui va du haut en bas. Que cette ligne vers le haut, avant que la partie supérieure du dolmen soit posée, n'est-ce pas ? Au-dessous de la table, il y a de grands médaillons. À l'intérieur de ces médaillons, sculptés, insérés et sculptés, gravés, on a-t-on envie de dire, placés à force, semble-t-il, dans le médaillon qui est rond, il y a 2 demi-circonférences en relief. On ne peut pas s'empêcher de penser que cette ligne qui descend du médaillon, c'est la ligne de cuisse jointe. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que ces médaillons sont des sexes. Féminins, bien sûr. Mais vraiment, cette réalité s'impose. Alors la question se pose tout de suite de savoir si une variété a été introduite et si tous ces médaillons sont semblables. Alors je les ai examinés très soigneusement. Il y en a 8, je les ai bien regardés. Il y en a 7 qui sont semblables et 1 qui n'est pas semblable aux autres. Alors pourquoi pas semblable aux autres? Il est plus profondément creusé. Ces demi-circonférences en relief dont je parlais sont curieusement ondulées, très légèrement. Et on pense tout de suite à une musculature. Alors on essaie de localiser cette musculature. et on s'aperçoit que c'est le côté d'une fesse mâle. C'est assez léger comme indication, mais je crois que c'est on ne peut plus net. C'est-à-dire que dit Brancusi ? Brancusi, après avoir donné la leçon du silence, donne maintenant la leçon de l'union des corps, qui n'est pas incompatible avec le silence. Ce n'est pas la parole qui est importante dans l'union des corps, certainement pas. Il donne cette leçon que, si chacun étant passé par le silence, devant, s'il veut conduire une expérience humaine normale, rationnelle, devant connaître l'expérience physique, peut la connaître de toutes les façons possibles, tout existe. Je crois que c'est net. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il parlait pour lui. Je n'en sais rien. Il faudrait naturellement refaire un petit peu d'histoire de la vie de Brancusi à Paris. Mais ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est le message. Maintenant, nous traversons Kirgoudjou et nous allons à la colonne sans fin. La colonne sans fin se présente comme une superposition de modules et les modules sont en général extrêmement mal décrits par tous ceux qui en parlent. Imaginez des modules tous semblables et composés de deux pyramides accolées par la base, des bases carrées, et imaginez que ces pyramides aient des arêtes curvilignes et que les faces de ces pyramides soient légèrement convexes. Chaque module étant composé, n'est-ce pas, de deux pyramides. Et ces modules sont superposés, tous semblables, sauf le dernier qui n'est qu'un demi-module. Et celui du bas qui est un module tronqué. Ensuite, ces pyramides accolées, n'est-ce pas, n'ont pas de pointe. Elles aussi, elles ont été tronquées et c'est par la partie tronquée qu'elles sont accolées. Nous nous trouvons donc en présence de quelque chose qui est parfaitement répétitif. Les 16 modules et le demi-module sont entièrement la même forme, et tout va être très différent selon qu'on va l'aborder par l'est ou par l'ouest. Mais là, nous sommes réduits à l'aborder en venant de l'ouest, puisque nous venons de la porte du baiser et qu'un sens nous est imposé. Je dis que c'est important parce que si on vient de l'est, on peut la voir de beaucoup plus loin, et à ce moment-là, on a des sensations très différentes. On la voit plate, d'abord, tandis que quand on vient de l'ouest, on voit tout de suite les volumes. Voilà déjà deux façons de voir cette colonne, alors qu'elle est la même. L'éclairage va changer les choses. Si on vient de l'est, et si on a la chance de la voir l'été, on va voir la colonne se détacher dans le soleil qui se couche. Si on vient de l'ouest, évidemment, il en est différemment. Ou alors il faut la voir le matin. Alors, voilà une autre idée, c'est que pour bien la connaître, il faut l'explorer en plusieurs saisons, à plusieurs heures, avec des orientations différentes. Elle nous propose donc déjà une série de spectacles, volume immédiat, plan immédiat sans volume, etc., reflet, éclairage, selon que on viendra d'un côté, de l'autre, à une heure, à une saison différente. Or, c'est toujours la même chose, toujours des motifs répétitifs. Avec un motif répétitif, on propose déjà plusieurs spectacles. Et des spectacles qui s'étendent sur un an, si on veut se donner la peine d'y regarder d'un petit peu près. Alors, approchons-nous de la colonne. Et regardons les modules. Le premier module, on le voit très bien, on est à la hauteur de ce module. Et puis le second, on le voit sous un autre angle, puisque le second module, la tête du second module est nettement plus haute que la tête d'un individu. Et peu à peu, le regard monte et découvrons la colonne. Au pied de la colonne, nous avons des modules massifs. Et quand nous regardons ceux qui sont en haut, nous les voyons absolument plans, nous voyons des carrés. L'effet de perspective est tel que on nous propose la transformation suivante, partir d'une structure qui est dans les trois dimensions, pour aboutir toujours la même structure, dans le plan, c'est-à-dire à deux dimensions seulement. Voilà une étude qui est intéressante à faire. Alors j'ai regardé comment les gens évoluaient autour de la colonne. Parce que la question me paraît très intéressante. Il faudrait voir, sans les prévenir, si les mouvements de ces gens sont aléatoires ou pas. Est-ce qu'ils se promènent autour de la colonne n'importe comment, ou est-ce qu'ils se promènent autour de la colonne suivant un certain nombre de lois ? Lois qu'il faudra exprimer de manière mathématique, même si c'est mon dada, j'affirme que cette étude devrait être faite absolument, parce que cela nous renseignerait sur la nature de la différenciation que propose cette colonne qui est entièrement répétitive. Donc il faudrait savoir comment on explore l'espace qui est autour de la colonne, car cet espace est très vaste. Elle est plantée au milieu d'une place immense, et c'est un gazon, un petit peu pelé d'ailleurs, qui se trouve tout autour. Enfin, elle est plantée sur une surface, disons, un petit peu verte et un peu curviligne. Alors la première chose que j'ai vue, c'est que les gens approchent et reculent, approchent et reculent. C'est tout à fait net. Ils ne restent pas en place. Ils vont vers et ils s'éloignent de, et ils perdent le sentiment de l'équilibre. Au bout d'un moment, l'amplitude de leur mouvement est de moins en moins grande. Et ils regardent de plus en plus souvent vers le sol. C'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus besoin de reprendre contact avec le sol. La colonne leur donnait le vertige, la colonne les projetait vraiment vers le haut, et la colonne leur retenait toute espèce de soutien. Je ne peux pas interpréter autrement. Quand ils se sont approchés puis éloignés pendant assez longtemps, c'est un second type de mouvement qu'ils font. Ils commencent à tourner autour de la colonne. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et ils font des arcs de plus en plus grands jusqu'au moment où ils se décident à tourner complètement tout autour de la colonne. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont constaté que ces formes répétitives proposent cependant une hélice. La fameuse hélice dont nous parlions tout à l'heure et que Brancusi, lorsqu'il était jeune, avait vue sur les maisons de paysans. Mais elle n'est pas dans la structure. Elle n'est pas proposée. Elle ne s'y trouve que si je fais, moi, l'effort d'exploration de tourner autour de cette colonne. Or, je peux tourner autour de cette colonne parce qu'elle est très haute et parce que j'ai beaucoup de place. Autrement dit, avec des éléments répétitifs, en effectuant moi-même des mouvements qui me sont possibles et en tenant beaucoup de place, en remplissant beaucoup d'espace, alors que les petites colonnades des maisons, évidemment, je ne peux pas tourner autour, alors il faut enjamber les balustrades, ça serait très maladroit et ça ne servirait à rien. Le changement, en changeant d'échelle, on peut retrouver la même forme en proposant des formes différentes. Une vis de pressoir, n'est-ce pas ? C'est une hélice. Quand elle est petite, vous voyez l'hélice. Là, on n'a pas eu besoin d'hélice. Il a suffi de poser des éléments répétitifs les uns sur les autres parce qu'on avait changé d'échelle. Au lieu de proposer quelque chose qui avait 2 mètres, on propose quelque chose qui en a 30, ça change tout. Et si le spectateur a besoin de reprendre pied, il n'y a pas d'autre mot, c'est parce que la colonne infinie le projette en l'air, vers l'avenir. Elle lui propose vraiment l'infini. Donc pour proposer l'infini, il n'y a pas du tout besoin de montrer une structure infinie. Une structure finie, ça suffit. Un nombre limité de structures finies, pour tout dire 16 et demi, eh bien 16 structures et demi semblables, superposées, donc un nombre fini d'éléments, permettent la conquête de l'infini. Pour penser l'infini, un nombre d'éléments fini suffit largement. Ces éléments n'ont pas besoin d'être divers. Ils peuvent être exactement les mêmes. Il suffit de les poser les uns sur les autres, mais que l'échelle que l'on nous propose soit la bonne. Alors reprenons la démarche initiatique. La table du silence, tuer le langage. La porte du baiser, s'unir. Et choisissez la façon de votre union, vous êtes maître, vous êtes libre. Toutes sont bonnes s'il y a union. Si, si. Et traverser la ville. Ce n'est pas par hasard qu'il faut traverser la ville et qu'il faut aller loin. Il faut avoir oublié de tuer le langage, oublié l'union, traverser tout le groupe, toute cette société installée, avec ce que cela représente d'aller et venu, utile, gratuite, professionnelle. En fait, c'est la traversée d'une vie, de traverser la ville. Alors seulement de l'autre côté, si vous avez exploré la colonne, alors vous pourrez conquérir l'infini si vous savez comprendre qu'un nombre fini d'éléments suffit. C'est-à-dire que n'espérez pas de salut sans avoir fait de mathématiques. Nous écoutons « La colonne sans fin » de Tiberio Ola. C'était La colonne sans fin de Tiberio Ola. La colonne sans fin de Brancusi a directement inspiré Tiberio Ola. Et il est certain qu'il faudrait faire une analyse comparée de la structure géométrique et algébrique de la colonne de Brancusi et de la structure géométrique et algébrique de la musique de Tiberio Ola. Tiberio Ola structure toujours très fortement sa musique. Et pour obtenir la sensation de sans fin, il a été obligé d'employer des procédés hors de la répétitivité absolue. Nous savons très bien que Riley ou Steve Reich introduisent des accidents dans leur musique pour transmettre de l'information et que la répétitivité absolue d'un module musical La répétitivité interminable n'est pas supportable. Elle engendre la monotonie. Dans le domaine de la sculpture, c'est-à-dire que dans l'espace à trois dimensions, on pouvait se borner à répéter si on considère une certaine échelle. Nous ne pouvons pas, ou très difficilement, transposer la notion d'échelle en musique, et pour obtenir la différenciation, on ne peut pas se servir de la répétitivité. Aussi, Tiberio Alla avait employé d'autres procédés. Mais qui était Brancusi? Il faudrait un petit peu présenter l'homme. Et le sculpteur Mac Constantinesco a très bien connu Brancusi. Il a même eu le privilège très rare, car Brancusi a supporté très peu de gens dans son entourage. Il a même eu le privilège très rare de travailler dans l'atelier de Brancusi. En quelle année, Mac Constantinesco?
En 1924 et le printemps de 25. C'était à la veille de l'exposition des arts décoratifs, la grande exposition qui a eu lieu à Paris et qui a transformé en somme la mentalité de l'art mondial, pas seulement de l'art français, n'est-ce pas? Parce que ça a été une très grande exposition. Et alors, j'ai travaillé avec Brancusi parce que j'aimais connaître le bois, comment il travaillait le bois. Et avant ça, j'ai travaillé pour Paul Poiret, le célèbre couturier Paul Poiret, qui, pour cette exposition, avec sa fantaisie, parce qu'il était très fantaisiste, n'est-ce pas, il a pensé de faire un carrousel de la vie parisienne dans le parc des attractions de l'exposition. Et alors, ce carrousel, qui avait toutes sortes de personnages de la vie quotidienne française, n'est-ce pas, la pipelette, la midinette, le vieux marcheur, etc., etc., toutes ces choses-là étaient représentées en bois et peintes, n'est-ce pas, et le public montait dessus sur un des attributs de ces bonhommes, n'est-ce pas, qui ont été faits là-bas. Et moi, j'étais un qui les a composés, et en même temps, n'est-ce pas, j'ai essayé, parce que je ne pouvais pas, c'était un énorme, n'est-ce pas, il y avait d'autres qui travaillaient aussi, mais les maquettes et tout ça, c'est moi qui les ai faites, même en plastique, n'est-ce pas, en matière, en sculpture, pour ainsi dire. Alors, Brancusi a été très amusé de cette chose-là, n'est-ce pas, parce que il savait, je lui ai dit que j'ai travaillé ça, et que je voudrais pénétrer l'art du bois, n'est-ce pas, le secret de l'art du bois, enfin, qu'il le possédait à merveille, ça se voit, n'est-ce pas. Et alors, il m'a accepté dans son atelier, et enfin, moi, j'étais comme un ami à lui, parce que je n'étais pas son engagé. Il avait d'autres, deux ou trois engagés qui enfin, polissaient le métal et tout ça. Mais et moi, je faisais aussi mes études à l'école du Louvre, en Sorbonne, tout ça, ça l'amusait aussi. Et chaque jour, après le travail, parce que tout près de son atelier, là-bas, il y avait un petit atelier, enfin très modeste, qui avait une sirène. À midi, la sirène commençait à siffler. Et alors, dès ce moment-là, on laissait le travail, et enfin, moi, je m'occupais des cigarettes et du pain, et lui s'occupait de la viande et tout ça pour les grillades. Il avait du très bon vin, d'ailleurs, dans son atelier. Et et le soir, je faisais des lectures, par exemple, même aussi parce qu'on a parlé du classicisme de Brancusi. Je lui lisais dans une traduction très bonne, qui était en roumain en ce moment-là, et que j'ai amené avec moi de la Roumanie. Je me trouvais à Paris depuis 1923, d'ailleurs. J'avais 23 ans, parce que je suis né aussi, avec le siècle. Et alors, je lui lisais des choses de Platon, par exemple, le symposium de Platon et de tout ça, le banquier de Platon. Alors, ça aussi l'intéressait beaucoup. Et il restait accoudé près de sa cheminée avec son chien, qui avait un grand chien qui était à côté de lui et qu'il caressait de temps en temps. Et voilà, j'ai été de ses familiers pour ce temps-là. j'ai parti de son atelier, peut-être je l'ai resté davantage, mais il a fallu rentrer en Roumanie pour quelques mois pour un service militaire. Alors quand je suis revenu, l'exposition battait son plein, n'est-ce pas ? J'ai resté là-bas. Et pas seulement ça, mais j'ai rencontré en 37. En 37, j'ai eu la mission de m'occuper de la décoration du pavillon roumain, parce qu'il y avait un pavillon roumain dans l'exposition mondiale 37 à Paris. Et je l'ai rencontré de nouveau, un ami, n'est-ce pas ? Et après, je l'ai rencontré en Amérique en 1939. Parce qu'il y avait la grande exposition de World's Fair de New York, où, enfin, je m'occupais toujours de l'aménagement des pavillons. Et en même temps, j'avais des ouvrages à moi qui étaient assez intéressants, parce que c'était des choses épiques, des frises épiques, en cuivre martelé. Et lui, je l'ai rencontré, c'était pour la première fois qu'on présentait l'EDA, sur une sorte de pierre à moulin, comme ça, qui tournait. Parce que l'EDA était placé sur ça. Et il était très content.
Sur un socle tournant.
Oui, c'est le socle tournant, n'est-ce pas ? Tournante, mais, enfin, par l'électricité, ça tournait toujours. Oui. Oui. Un mobile. C'était un mobile, n'est-ce pas ? Et il était très content de ça, l'EDA, quand il a vu sur toutes les lumières en même temps. Et donc nous sommes revus là-bas, et entre ces rencontres, j'ai oublié de vous dire que je l'ai rencontré en Roumanie pendant qu'il travaillait à ses sculptures de Târgu Jiu. Moi je me trouvais aussi en Roumanie, parce que moi j'habitais ou en Italie ou en France. J'avais un atelier près de la porte de Saint-Cloud, que peut-être s'il n'y avait pas la guerre, je l'aurais eu même aujourd'hui, vous savez.
Quand vous l'avez connu en 1924, vous aviez un problème à résoudre qui était celui de l'utilisation du bois. Ce que vous alliez lui demander, c'était des conseils.
Oui.
Quels conseils vous a-t-il donné ? Comment les choses se sont passées entre lui et vous ?
Voilà.
Comment vous a-t-il aidé ? De quelle manière ?
Alors, il m'a dit, est-ce que vous savez affûter des outils pour le bois ? Je dis... approximativement, je ne sais pas. Si vous allez vous montrer des choses que je ne connais pas, alors c'est parfait. Et après, je pourrais vous dire encore, si vous avez vu que maintenant, au Musée des Arts Modernes, il y a quelques fragments en bois sculptés de la colonne sans fin, mais des fragments de 3 mètres, 2 mètres, 5 ans, 3 mètres. Il a acheté ce bois de démolition. Il y avait des maisons qui se démolaient à ce moment-là, et il a acheté le bois. C'était du chêne, plutôt, du noyer très peu, mais enfin, ces maisons dans le marais de tout ça, qui dataient du XVIIe siècle et tout ça, n'est-ce pas, dans les démolitions, il a acheté ce bois. Alors, c'est pour ça que ces fragments n'ont pas une dimension plus grande, parce que l'idée de faire quelque chose d'extraordinaire lui est venue beaucoup plus tard, n'est-ce pas ? Et alors, dans ce temps-là, il m'a fait travailler à ces morceaux de bois. Il me disait, écoutez, faites comme ça, parce que le bois, c'est comme un vieillard qui doit tout le respect de notre part. Combien des années ça fait que ce bois a mis de se développer dans le champ, par exemple, ce chêne. Et peut-être une centaine d'années, peut-être plus. Et alors, on l'a coupé, on l'a porté, et puis on l'a mis dans une maison. Cette maison, n'est-ce pas, ça datait du XVIIe siècle. Alors voilà, déjà, on dit un XVIIe siècle, n'est-ce pas, peut-être de Louis XIII ou de Henri IV ou de Louis XIV, etc. Et alors, voilà, il est arrivé chez nous. Donc, ce vieillard, nous devons le respecter. Ne pas l'esquinter. Ce que nous avons fait, d'ailleurs. Et il me faisait un patron qui était en carton, comme ça. Il le mettait sur la surface. Et puis, on faisait un contour pour cette partie trapézoïde ou demi-trapézoïde. Et moi, je commençais à taper sur le contour, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on rencontrait un autre plan de la sculpture. Et enfin, c'est pas si savant que ça, n'est-ce pas? On parle des choses très savantes et c'est peut-être vrai. Moi, j'étais un jeune homme, peut-être qu'il ne me montrait pas tout, n'est-ce pas? Mais enfin, de toute manière, c'était ça.
J'ai dit tout à l'heure qu'au congrès de Bucarest, les communications pouvaient être classées en deux catégories très différentes. Dans une catégorie, on pourrait mettre tous les hommages à Brancusi. Hommage dont j'ai envie de dire qu'ils avaient en quelque sorte un aspect classique. Et puis d'autre part, un certain nombre de communications étaient telles que leur auteur s'était efforcé d'adopter un point de vue contemporain d'examen de l'œuvre d'art. C'est plutôt des exemples de cette deuxième façon de voir les choses que nous allons évoquer maintenant. Brancusi a fait un très grand nombre de photos de ses œuvres. Et Madame Marielle Tabar, qui est chargée d'études au Musée d'Art Moderne, avait pris pour titre de sa communication « Quelques réflexions sur Brancusi photographe ». C'est un exemple de critique contemporaine.
Marielle Tabar, pourquoi avez-vous considéré les photos de Brancusi? Est-ce que vous aviez une idée préconçue ou au contraire, est-ce que c'est l'examen des photos qui vous a conduit à des conclusions?
C'est exactement la dernière proposition, c'est l'examen des photos, car naturellement j'étais chargée de les classer pour le Musée d'Art Moderne et c'est leur examen qui m'a conduit à les examiner de plus près, si je puis dire.
Et alors, avec quel résultat, quelle conclusion?
Eh bien, au départ, un apparent ennui, car parmi ces plus de 800 photographies, il y a énormément de doubles ou de triples ou de quintuples, si je puis dire. Mais au fur et à mesure que mon œil s'exerçait, qu'il essayait de distinguer un tirage d'un autre, cela devenait extrêmement excitant et finalement, je voyais des choses tout à fait extraordinaire, que Brancusi avait certainement mis là exprès, pas pour moi bien sûr, mais je pense, comme pour ses œuvres sculptées, mis là exprès pour que nous activions notre perception, pour que nous devenions de plus en plus attentifs.
Alors quoi? Qu'a-t-il mis?
Alors qu'y a-t-il par exemple? Eh bien il y a de subtilités, de variations d'une prise de vue à l'autre. Il y a bien sûr des angles de vision différents, mais il y a des subtils changements dans la composition même, ou dans le cadrage, ou dans l'éclairage, ou même dans le tirage, c'est-à-dire inversion de cliché ou contre-type de négatif, etc.
Autrement dit, ce sont des séries qui se dégagent.
Absolument.
Bon, séries qui comprennent combien d'unités en moyenne?
Cela varie selon l'importance ou l'intérêt que Brancusi apportait, soit à l'œuvre, soit à l'éclairage de l'œuvre. Ça peut aller de 5 à 20 tirages ou prises de vue différentes.
Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé à des déterminations très nettes? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas ambigus? Ou au contraire, est-ce que presque toute la collection peut être rangée en série? Ou à la limite, toute la collection?
Oui, je crois qu'il y a finalement très peu de cas ambigus, ce qui pouvait m'apparaître au début comme une erreur, comme un mauvais cadrage ou un mauvais éclairage ou un mauvais tirage. Tout cela, finalement, s'est rangé naturellement et se déroule magnifiquement.
Est-ce que vous connaissez la date des photos que vous avez maniées? Parce que pour la détermination des séries, c'est très important.
Bien sûr, j'ai commencé par travailler uniquement avec les dates. Et ensuite, j'ai seulement identifié les séries.
Et toutes les photos sont datées sans exception?
Elles sont datées, c'est-à-dire elles sont datées après un travail de recherche.
Mais vous arrivez à les dater,
oui,
toutes?
Oui, oui.
Alors, les séries s'étendent, encore une fois en moyenne, sur quelle période? Est-ce qu'il y a des séries très ramassées, telles que, par exemple, on peut penser que c'est en 2 ou 3 jours qu'il les a faites, ou oui. au contraire, ce qui serait plus...
Alors, dans, on peut penser, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu ma communication.
Pas entièrement.
Ah bon, c'est... parce que j'ai montré, par exemple, une journée, ou par exemple, une journée à l'atelier de Brancusi. Alors, vous avez les fenêtres ouvertes, la lumière naturelle... et puis il change une œuvre, et puis la nuit tombe, il change une autre œuvre. Et c'est très calculé, parce que c'est l'oiseau de bronze qui brille, qui remplace l'oiseau en marbre, qui lui va avec le jour, etc., etc. Donc ce sont des choses qui sont très rapprochées dans le temps. Quelquefois, ce sont des... comment on savait, une fusillade, enfin ça va à toute vitesse. Ou alors il fait tourner son œuvre, il la mitraille sous tous ses angles. Ça c'est plus banal, si vous voulez, c'est Mademoiselle Pogani qui tourne, qui présente dans l'espace ces différentes faces sur un roulement à billes qui existe maintenant au Musée d'Art Moderne. Mais ce qui est important, c'est pas seulement de voir tourner Mademoiselle Pogani, c'est grâce à la photographie et grâce au contact réel avec cette œuvre qui tourne, c'est de voir qu'il y a des milliers de Mademoiselle Pogani. Ce n'est pas seulement voir Mademoiselle Pogani de face, de dos, etc.
Est-ce qu'il y a des séries qu'il a poursuivies pendant des périodes de temps très grandes ? Est-ce que, par exemple, vous avez identifié une ou plusieurs séries qui s'étendraient sur des mois ou sur des années ?
C'est difficile à dire. Je ne crois pas. Ce qu'il a fait, en tout cas, c'est qu'il a photographié des oiseaux avec des éclairages, avec des angles vision, qui se retrouvent de série en série. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de...
Il y a une sur-série.
Voilà, si vous voulez, par exemple, je vais montrer tout à l'heure une chose remarquable que j'ai découverte uniquement par mon petit travail de classement, c'est ce glissement du soleil qui tombe d'une lucarne et qui, au fur et à mesure que le soleil descend et se couche, il y a ce losange qui éclaire l'oiseau dans sa course différemment. Eh bien, ce moyen, si vous voulez, ce procédé, bon, il l'a utilisé pour d'autres oiseaux. Là, c'est plus un losange, mais un carré, etc. Bon, il utilise des techniques, si vous voulez, qui peut s'appliquer à une autre série ou à un autre sujet. C'est-à-dire que tout ça se succède.
Oui, mais il y a bien 2 idées nettement différentes. Hein.
Chaque sujet reçoit son traitement.
Donc, chaque sujet reçoit son traitement. Oui. Et dans chaque série... Et il a employé des techniques que l'on peut retrouver. Mais le fait qu'il ait employé des techniques que l'on peut retrouver dans chaque série, introduit-il jusqu'à la notion de sur-série ? Le passage n'est pas très commode à faire.
Je crois que peut-être ça me dépasse un petit peu, parce qu'effectivement, en même temps, s'il y a ces séries, elles concernent toujours un unique objet... et effectivement qui reçoit une attention qui est particulière et qui est propre à chaque fois à ce sujet.
Ah, c'est plutôt une constante alors.
Oui, voilà, je crois.
Il y a un invariant d'observation que l'on observe et dont jaillissent les séries. Mais au niveau de sa sculpture, on retrouve ça aussi.
Mais bien sûr, mais comme il faut quelquefois dépasser ce qu'on dit tout le temps, tous les jours sur Brancusi, c'était une manière, et fidèle, d'une manière fidèle à Brancusi, de renouveler notre perception de sa sculpture.
Monsieur Pierre Rouve est professeur à l'Institut de pédagogie de l'Université de Londres. Au congrès Brancouche, il a fait une communication dont je voudrais lui demander d'exposer l'objet.
Ce que j'ai fait n'est que très marginal par rapport à l'immense horizon d'études brancusiennes qui a été couvert par mes collègues. Je voudrais simplement souligner que j'ai payé une dette épistémologique que nous avions à l'égard de Brancusi et qui s'est développée tout naturellement au cours des séminaires avec des professeurs dans une étude de recyclage à Londres. Voilà, ce que nous avons découvert en approchant Brancusi a été non pas un manque de clarté chez Brancusi, mais une pauvreté de nos structures logiques qui se révélaient incapables de saisir le processus créateur et surtout le processus communicatif de Brancusi ou imposé par Brancusi. Il a fallu donc en quelque sorte nous éloigner de la logique aristotélienne qui demeure telle même quand elle renie ses origines, quand elle paraît newtonienne ou positiviste. Il nous a fallu revenir à la logique syllogique. Elle peut être appelée pré-socratique, héraclitienne, pour mieux comprendre Brancusi et pour mieux comprendre le fait artistique tel qu'il paraît aujourd'hui. C'est donc dans un cours de logique de la communication avec l'œuvre d'art que soudain Brancusi est surgi à l'inattendu comme un maître de pensée. Brancusi, le logicien. Brancusi, l'enseignant qui enseignait aux enseignants.
Pour faire les études dont vous parlez et pour arriver à la conclusion que vous venez de donner, est-ce que vous considérez en particulier certaines œuvres plutôt que d'autres ?
Ici, vu la brièveté de temps dont on dispose, je n'ai parlé, comme vous savez, que de Mademoiselle Pogani, où le problème de l'un et du multiple se pose d'une façon fort pertinente. Dans le séminaire que nous avions, naturellement, nous avons discuté nombre d'œuvres de Brancusi. Mais pour ne donner qu'un exemple, le problème de l'un et du multiple avec Mademoiselle Pogani. Mademoiselle Pogani est-elle plusieurs ? Les demoiselles Pogani sont-elles une ? La réponse que nous donne un certain positivisme en nous disant qu'il s'agit de variations d'un thème semble nous laisser à notre fin. D'autre part, la description purement empirique venant de l'extérieur nous a semblé se solder par un exercice de lexicologie tautologique, une répétition de l'image en termes plus ou moins adéquats. Par conséquent, l'étude de Mademoiselle Pogani, des demoiselles Pogani, qui sont peut-être les demoiselles d'Avignon pour ce qui concerne la sculpture, nous a imposé aussi d'élargir nos concepts et d'en revenir à Héraclite, pour qui le soleil qui se lève chaque jour est le même, elle est pourtant toujours différente.
Dans le cadre de Mademoiselle Pogani, j'avancerai, si vous me le permettez, le mot « famille ». Et les demoiselles Pogami relèvent de la même famille, non pas humaine, mais de la même famille de formes. Il n'en reste pas moins que, exactement comme dans le domaine des arts plastiques, lorsque l'on fait un programme pour obtenir telle ou telle forme grâce à l'ordinateur, on obtient toujours des variations, mais le programme nous donne une structure de base. Seulement, évidemment, dans le cas où on programme, on insère la structure volontairement, tandis que dans le cas de l'analyse, la difficulté est de déterminer cette structure, celle qui a été insérée par le créateur, en l'espèce par Brancusi. Or, il ne l'a pas insérée logiquement, il ne l'a pas insérée mathématiquement, il l'a insérée intuitivement. Je pense par exemple à la difficulté qu'il y a à déterminer la structure de base des chapeaux tressés kabyles. Aucun n'est semblable, et tous sont pareils. Mais déterminer quelle est la structure incluse, celle qui sert de base, il y en a une, tous nos sens le disent, mais ensuite reste à le démontrer, c'est la démonstration qui fait problème.
Ah, certainement, mais ce que vous venez de dire confirme en quelque sorte ce que nous avons trouvé, que nous nous trouvons constamment piégés par nos habitudes conceptuelles. Vous n'avez parlé que de la production de l'œuvre d'art, c'est-à-dire une activité de devin plus ou moins grande de ce que Brancusi aurait pu ou n'aurait pas pu penser, à condition, bien entendu, que l'on ne retrouve des éléments, des invariantes structurelles dans l'œuvre de Brancusi ou dans n'importe quelle œuvre d'art. Nous considérons le problème de la consommation de l'art aussi important. Et c'est du point de vue de la consommation de l'art que nous avons examiné cette logique. Si nous ne pouvons pas arriver à des invariantes, à des traits distinctifs, à un système binaire tel que vous le souhaiterez pour une programmation fidèle structuraliste ou cybernétique, dans le moment de la production, nous pouvons en créer un dans une double articulation qui est celle de la consommation. L'articulation précisément d'une déconstruction de l'œuvre pour qu'elle devienne plus concevable. Un langage artificiel, donc, se révèle dans la communication avec l'œuvre d'art. Et c'est là où je retrouve votre pensée. Nous construisons une logique de la communication qui n'est certainement pas une image de la logique de la production, mais qui nous permet, surtout dans une atmosphère de pédagogie, de créer un contact plus facile et surtout plus lucide avec nos élèves.
Les enregistrements qui composent cette émission, je tiens à le signaler, ont ce que les gens de radio appellent une couleur différente. C'est que certains enregistrements ont été faits à Paris, certains ont été faits à Bucarest pendant le congrès de septembre 1976 dont je parlais au début de cette émission, et celui que nous allons entendre a été fait au cours d'une liaison en duplex entre Bucarest et Paris. Cette fois, c'est vers le critique Dan Olica, qui est le directeur d'une des principales revues roumaines, la revue 20e siècle, et qui est professeur à ce qui, pour nous, correspond aux Beaux-Arts à Paris, qui est vice-président de la Société internationale des critiques d'art, que je me tourne. En effet, une chose me choque un peu. Une partie de la critique que j'appellerais officielle tente à faire de Brancusi, alors je ne vais pas dire un homme des bois, mais tout de même, un individu très fruste, très extérieur à toute pensée logique ou philosophique, un paysan et même un naïf. Dan Olica, que faut-il en penser ?
Je ne dis pas qu'il était un naïf lorsque je dis qu'il s'opposait à l'art de son temps.
Non, bien sûr, mais
avec cette cohérence synthétique qu'il opposait à l'esprit d'analyse de l'art moderne européen tel qu'il s'était développé à partir du tronc gréco-latin, je dis qu'il y avait de la lucidité là-dedans, mais cette lucidité qui est inhérente à une compréhension globale et synthétique des choses. Et c'est dans ce sens qu'il était paysan et qu'il a voulu rester un paysan.
Oui.
C'est ça le grand paradoxe de Brancusi, qu'on oublie quelquefois chez vous comme chez nous. En Roumanie, on a la tendance toujours de souligner le caractère paysan de sa création, enfin, cette façon trop simple de prouver ses attaches dans le sol des réalités artistiques roumaines. En France, on n'a pas assez d'informations pour le rattacher à une tradition. Mais en réalité, il s'est construit dans Paris un mode de vie très stylisé, très élaboré, qui est celui d'un paysan des Carpates, d'un pâtre des Carpates. Mais il est devenu ce paysan, c'est ça qui est original. Il est devenu ce paysan à Paris. Il est parti un élève des sculpteurs d'esprit académiste, très marqué par Rodin. Mais ce fut seulement à Paris, au contact des grandes révélations qui s'étaient produites dans l'atmosphère artistique de Paris, de cette décennie formidable qui fut la première décennie du siècle. Et il a eu le courage, dans cette atmosphère, de se retrouver, de plonger dans les tréfonds de son être et de retrouver le paysan là où il gisait caché. Et il est devenu, dans cette ambiance, en se confrontant avec ces réalités modernes, il est devenu le paysan que nous connaissons.
À son insu ?
Non, pas à son insu. Mais par une fatalité qui dépasse la simple volonté, la simple velléité artistique. C'est ça la dialectique que je trouve admirable et exaltante, cette dialectique de notre siècle, c'est que Il y a un lien entre l'universel et le national que, un cas qui semble tellement spécial, le cas de Brancusi, peut prouver d'une façon vraiment infaillible.
Non, je vais scandaliser un bon nombre d'auditeurs en disant ça, mais je le pense. Le sens de la géométrie est complètement perdu et on noie les formes. Avec Brancusi, tout change, on la retrouve. Et alors ça, c'est très très indépendant d'une influence quelconque et d'une origine quelconque. Il va à la géométrie. Je ne dis pas du tout qu'il fait des œuvres géométriques, je ne dis pas qu'il illustre des fonctions, qu'il fait des cubes, je ne dis pas cela. Ouais. Je dis que dans chacune de ses œuvres, surtout les œuvres importantes, une géométrie prédomine, et c'est par cette géométrie qu'un message passe, s'il avait l'intention d'en faire passer un. Ce que j'ignore complètement, ça ne me paraît pas évident à la vue de ses œuvres.
Mais il faut ne pas oublier toutefois le cubisme, qui avait fait son éclosion dans les années décisives de Brancusi. Mais Brancusi, qui est lié au cubisme par ce besoin de rationalité, et de rationaliser l'expression à travers la géométrie, devance la sculpture cubiste, puisque la sculpture cubiste se forme ayant comme point de départ la peinture. Au début, la sculpture des cubistes est plutôt une volumétrisation, si l'on peut dire, une mise en trois dimensions de ce que le peintre avait déjà fait dans le tableau. Tandis que chez Brancusi, tout se passe plus vite, avec une force qui est vraiment radical et qui semble une révélation essentielle. Mais il y a des rencontres entre lui et les cubistes dans ce sens, dans cette volonté de rejeter un certain romantisme. On a rapproché Brancusi, par exemple, on fait un rapprochement entre Brancusi et Matisse. Mais chez Matisse, la volonté de retrouver le primordial, les éléments vraiment irréductibles de l'expression, passe par un besoin profond de romantisme, un romantisme inassouvi.
Brancusi est beaucoup plus dur.
Beaucoup plus dur, et c'est en cela qu'il se sépare essentiellement de l'expérience de l'art roumain. L'art roumain était marqué au 19e siècle essentiellement dans ses grandes expressions par le romantisme. Par Brancusi, l'art roumain accède à un besoin impérieux de classicisme. C'est dans ce sens un classicisme qui est nullement livresque, un classicisme qui assume ce qui est vraiment dur dans les confrontations du siècle. Et c'est dans cela que il est pas simplement redevable à l'expérience roumaine, mais il est redevable aux besoins profonds du génie roumain. Ce génie artistique qui, dans tout le domaine, avait déjà accompli une grande expérience romantique et qui sentait le besoin de passer outre. Et dans ce sens, Brancusi doit être rattaché à l'expression roumaine, et en même temps, on doit le voir dans ce contexte parisien des années vraiment très fertiles, des années 1907, puisque c'est l'année de vraiment enfin, de charnière dans l'œuvre de Brancusi. Son classicisme est dans ce sens très ingénu, enfin, dans le sens que Baudelaire donnait à la sculpture lorsqu'il disait que la sculpture est un art de Caraïbes, c'est-à-dire un art essentiellement synthétique et ingénu par rapport aux complications analytiques de la peinture. Et dans ce sens, Brancusi est classique par ce besoin radical de géométrie et exotique par rapport à l'art de l'Occident européen. Moi, j'ai essayé de le nommer dans un livre que j'ai fait sur Brancusi. J'ai essayé de le nommer en utilisant cette formule d'un classicisme de l'exotique. Exotique pas dans le sens suranné et pittoresque, mais exotique dans ce sens d'une grande distance, d'un grand écart entre ce qu'il apporte et l'expérience constituée de l'art occidental. Et d'ailleurs, les choses ne sont pas tellement, tellement lointaines. Pensez à ce qu'on a déjà écrit sur les tableaux enfin, qui sont le point de départ de la peinture au XXe siècle, le Demoiselle d'Avignon de Picasso. On expliquait tout par la révolution accomplie par un tel tableau, par l'influence de l'art africain, l'art des nègres africains. Maintenant, les recherches actuelles montrent qu'au contraire, l'influence s'est produite sur Picasso après l'élaboration du tableau, et que plutôt il s'agit là de l'influence des prototypes proto-ibériques. C'est la démonstration qu'a faite d'une façon très appliquée Pierre Dex. Donc, il n'y a pas aucune... aucun iconoclasme dans ce courage de montrer des rencontres entre un art exotique, lointainement exotique, et l'art des classiques du siècle. On l'a fait lors d'une grande exposition en Allemagne en 1972 qui s'appelait Moderne Kunst und Weltkulturen, par exemple. Là, on avait fait voisiner des œuvres célèbres, non seulement de Picasso, de Max Ernst, mais aussi de Brancusi, et des œuvres des déserts africains océaniens. On proposait une confrontation qui n'est pas toujours faite pour nous convaincre, mais qui mettait dans une relation directe ces concepts de classicisme, puisqu'il s'agissait des classiques du siècle, et d'exotisme. Brancusi avait une idée très haute du travail des nègres d'Afrique
en bois.
Il les comparait à la grande adresse, à la grande habileté des paysans roumains. Mais en même temps, ils n'avaient pas besoin d'aller vers l'Afrique pour se fonder dans ce besoin impérieux d'une vérité synthétique et géométrique, puisqu'il avait cette expérience derrière lui. Et ce que je dis derrière lui, je dis dans son inconscient, dans ce qu'il avait vécu, dans ce qu'il avait regardé durant toute son enfance. C'est dans ce sens qu'il se retrouvait, non pas dans un ordre sentimental de biographie nostalgique. D'ailleurs, il est vraiment à l'antipode de certaines tendances qui faisaient rage dans la littérature roumaine de l'époque. Il avait une tendance sentimentale, ce qu'on appelle le semalatorisme, une tendance qui était liée à une compréhension idyllique, simplement nostalgique du village, et dans une compréhension qui était au fond rétrograde, puisqu'elle voyait dans le village le lieu d'une régression historique. Tandis que chez Brancusi, le village est le lieu d'une permanence. C'est pourquoi je parlais de d'ontologie, qui inclut l'avenir. Donc, pas besoin de se fonder sur l'Afrique, puisqu'il avait son exotisme, mais son exotisme compatible avec un nouveau classicisme. Il avait son exotisme dans son expérience profonde. Et je pense que c'est ça l'explication de cette nouvelle attitude et cette nouvelle typologie du génie que nous propose Brancusi. Puisqu'on parlait de Picasso il y a quelques instants. Il y a dans Picasso une rage, une fièvre qui est faite pour illustrer tout ce qui est désespéré et en même temps exaltant dans l'expérience de l'art moderne. Il avait dit une fois, l'attaque est une fuite en avant. Il a ce besoin perdu d'invention. Il veut éperdument inventer. Inventer au-delà des limites de l'humain. Tout ce besoin de changer toujours chez Picasso, comme pour prouver que il n'est pas lié à aucun des moules traditionnels de l'être humain, de notre existence, qui a ses revenirs, ses besoins psychobiologiques qui obligent à revenir à des stéréotypes. Il y a une certaine répétition qui est dans l'ordre de la vie. Chez Picasso, ce qui semble monstrueux, c'est ce besoin de toujours inventer au-delà des limites de l'humain, de se transformer toujours, au risque de passer en flèche à travers le musée des millénaires, non, de mettre à contribution tout ce qu'on a déjà fait dans l'art du monde. Rien de cette impatience chez Brancusi.
Je crois que quand tu dis impatience, tu touches un mot extrêmement clair pour Brancusi. Impatience, pas d'impatience chez Brancusi. C'est une certaine façon de vivre le présent. Au fond, on n'a pas tellement de preuves de la conscience qu'il pouvait prendre de son rattachement à une tradition, et on n'a pas tellement de preuves non plus de la conscience qu'il aurait eue d'une direction dans laquelle il aurait souhaité engager, ou il aurait réussi à engager, en fait il a réussi, tout l'art de son temps. C'est plutôt un acharnement présent avec une espèce de certitude sur chaque œuvre.
Oui, une certitude.
Je ne pense pas qu'il soit nostalgique du passé, je ne pense pas qu'il soit inquiet de l'avenir. Je parle de son œuvre, je ne parle pas de sa vie, de sa biographie. Oui. Je pense à Brancusi aux prises avec la matière, qu'elle soit de bois ou de pierre.
Mais puisque c'est son œuvre veut abolir la biographie, l'intrusion du biographique dans la sculpture, c'est ça qui est vraiment l'essentiel. Il n'est que présent pur philosophiquement, c'est ça chez Brancusi. Et il n'y a pas de aucune impatience, vous avez raison. Il y a une sorte de confiance calme.
Voilà.
De confiance voilà. Calme. Mais pas simplement dans l'œuvre en tant que résultat d'un effort, mais une confiance dans le geste de faire. C'est ça qui est tout à fait inattendu pour l'Europe. Puisque l'artiste européen est un artiste qui s'acharne vers un résultat. Tandis que pour Brancusi, comme par exemple pour les artistes de l'Asie, ce qui compte, c'est l'état de faire et non pas le résultat de l'action de faire. Il l'a dit d'ailleurs, dans ce qui est difficile, ce n'est pas de faire, c'est de se mettre dans l'état de faire.
Oui, seulement tout ce que je viens de dire, enfin les remarques que j'ai essayé de proposer, ça n'est pas sur des textes touchant à Brancusi que je me suis appuyé, ça n'est pas sur des textes de Brancusi que je me suis appuyé, c'est sur ce que je crois sentir en voyant l'œuvre de Brancusi.
C'est
en voyant la chose de son état, je ne peux plus rien ressentir. C'est le contraire, je déduis son état de ce que je vois, de ce que je peux toucher, de ce que je peux regarder, de ce que je peux examiner, de ce que je peux analyser.
Oui, c'est vrai. C'est un besoin de...
En voyant la chose,
c'est un besoin...
me demande de quoi elle est le support. Qu'est-ce qu'elle peut supporter?
C'est un besoin nouveau d'objectivité.
Voilà. Qu'est-ce qu'elle ne supporte pas? Supporte pas d'inquiétude.
Oui, c'est un besoin nouveau d'objectivité. C'est celle qui est compatible avec une analyse très stricte de rapport mathématique et de rapport entre multiples, par exemple... sérialité unique, comme vous l'avez fait lors de notre colloque à Paris au mois de juin au Musée d'Art Moderne. Mais cette objectivité est une synthèse assez imprévue de sujets et d'objets. Puisque, par exemple, lorsque Brancusi disait à ses élèves, l'essentiel, c'est de laisser tomber le marteau à une cadence qui soit toujours égale et sans aucun effort. C'était ça. Durant de longues journées, les élèves s'initiaient à cette façon de laisser tomber le marteau sur la pierre. C'était une culture de l'être, du sculpteur, mais pas simplement du sculpteur, celle qu'il envisageait. Pas en vue simplement de l'œuvre à produire, mais une culture qui soit enrichissante pour l'être, dans un sens, je répète, philosophique, qui dépasse de loin l'art, le faire artistique. Et dans ce sens, il y a, chez Brancusi, une complète symbiose entre l'aspect de prospection objective de l'œuvre et celle d'expression subjective. Et c'est pourquoi, par exemple, des formes très semblables, des ovoïdes d'une pureté incorruptible, sont tout le commencement du monde ou la muse endormie. C'est que la rêverie subjective est comme un autre visage de l'exploration cosmique. Je pense que c'est ça, enfin, l'originalité profonde et philosophique de cette sculpture, qui abolit cette dualité, ce dualisme, qui est pas simplement philosophique, mais psychologique, de la pensée européenne. cette dichotomie entre objet et sujet. Ça nous défend contre tout subjectivisme, contre toute expression tuméfiée de l'individu. D'après les mots de Baudelaire, c'est l'art qui a tué l'artiste, c'est l'originalité non individuelle qui a nuit à l'originalité collective. Et dans ce sens, Brancusi se défend contre l'invasion de la subjectivité.
Oui, mais cependant, en ce moment, l'œuvre de Brancusi est en train de servir de support à notre dialogue. Et manifestement, si nous sommes d'accord sur beaucoup de points, nos deux discours sont colorés de manière différente. Si bien que par la même œuvre, nous faisons passer des messages différents. Tu es sensible à des notions telles que rattachement, ontologie, spiritualité, philosophie. Et moi, je suis sensible à une géométrie et à des surfaces. Je suis sensible à l'envie que j'ai de toucher longuement toutes les sculptures de Brancusi. Je ne crois pas avoir jamais, à propos d'une œuvre d'art, prononcé le mot sensualité, que je n'aime pas quand il s'agit de l'œuvre d'art. Et pourtant, il y a quelque chose comme ça quand on regarde une œuvre de Brancusi. On a vraiment envie d'y toucher. Je n'ai pas envie de toucher à du Rodin. Je n'ai pas envie de toucher à... Je n'ai pas envie de toucher à du Etex. Je n'ai pas envie de toucher à la plupart des œuvres des sculpteurs européens. Vous avez dit européen, ce qui est une chose très importante. Vous, Roumain, à plusieurs reprises, vous avez dit européen pour l'opposer à Roumain, ce qui vient à l'appui de ce que je suis en train de dire en ce moment, de la possibilité de sous-tendre deux discours avec les mêmes formes. Est-ce que vous sentez un peu ce que j'essaie de vous communiquer?
Vous êtes dans le sens du programme même de Brancusi, qui disait qu'il faisait de la sculpture pour aveugle, dans ce sens que c'est une sculpture qui s'offre, pas simplement à l'aveu, mais en contact plus pleinement sensuel. Et d'ailleurs...
On n'a pas envie de toucher du carpeau, par exemple.
Oui, mais maintenant, l'envie, par exemple, de toucher à toute une sculpture moderne, issue quelquefois de l'exemple de Brancusi, tel celle d'Arf, par exemple. Et,
j'ai envie de toucher à des sculptures égyptiennes, je ne suis pas sûr que j'oserais toucher à toutes. Tandis que j'ai envie de toucher à toutes les sculptures de Brancusi, et aucune n'est susceptible de m'effrayer ou de me communiquer en quoi que ce soit l'idée de la mort en aucun cas.
Oui, ça c'est fondamental. D'ailleurs, il le disait, il n'aurait jamais accepté l'idée de passer, par exemple, une nuit à côté d'une œuvre telle le Moïse de Michel-Ange, qui l'effrayait. Et avec ça, il disait que la sculpture est faite non pas pour effrayer, non pas pour dominer, mais pour rester dans ce contact direct, cordial, avec celui qui la regarde. Des sculptures telles le miracle, qui est le phoque, qui était faite pour des enfants, pour jouer avec, par exemple. Donc, une cordialité essentielle, mais une cordialité, je le répète, qui n'exclut nullement une certaine, non simplement spiritualité, mais même une certaine distance hiératique. C'est ça l'originalité de cet art. Il vient de très loin, non pour s'opposer à l'Europe, mais pour enrichir l'expérience européenne de ces tréfonds historiques et mythiques d'un art populaire.
C'était un documentaire du vendredi que Georges Charbonnier consacrait à Constantin Brancusi, diffusé le 7 janvier 1977 sur France Culture. Y participaient Mac Constantinescu, sculpteur ayant travaillé avec Brancusi, Marielle Tabar, chargée d'études au Musée d'art moderne de Paris, Pierre Rouve, professeur à l'Institut de pédagogie de l'Université de Londres, Dan Olica, essayiste, critique d'art, directeur de la revue roumaine XXe siècle.